Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire et je vous propose une ultime émission sur ce compositeur dont nous avons découvert tant de facettes cette semaine, c'est Anton Reicha. Soyez les bienvenus.
Musique en mémoire, Jean-Luc Rider.
Bonjour Catherine Buzer.
Bonjour Jean-Luc.
Souvenez-vous, vos titres de travail, Anton Reicha, explorateur, innovateur, surprenant ami de Beethoven.
Expérimentateur.
On a fait connaissance avec toutes ces facettes de celui qu'on appelait encore il y a peu Anton Reicha. Et c'est grâce à votre spécialiste, votre invité, notre pianiste, cette semaine que nous en savons autant de ce compositeur.
Ivan Illich, qui nous propose aujourd'hui de découvrir l'une des facettes les plus connues peut-être d'Anton Reicha, le pédagogue et surtout l'auteur des célèbres quintettes à vent.
Thank you.
Allegro tanto, c'est le premier mouvement d'un quintet pour cordes et hautbois, opus 107 d'Anton Reicha, par le quatuor Amati et Kurt Mayer au hautbois. Les quintettes, c'est souvent à cet ensemble que l'on associe le nom d'Anton Reicha, puisque lorsqu'il s'établit à Paris, il va produire un nombre considérable de quintettes. Ivan Illich, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi Reicha a-t-il quitté Vienne pour s'installer à Paris ?
Alors, sa vie à Vienne a été interrompue par l'occupation de l'armée de Napoléon, déjà en novembre 1805. Alors, il faut savoir qu'en 1806, Reicha est parti à Leipzig, puisqu'il allait surveiller la création de sa cantate Lenor, que Beethoven a beaucoup appréciée d'ailleurs. Mais malheureusement, pendant le voyage, Leipzig a été bloqué par les Français, encore une fois. Petite parenthèse, Reicha a rendu visite à sa mère à Prague pour la première fois depuis 1780, c'est-à-dire que quand il avait 10 ans, et là, il en avait 36. Donc c'est très étonnant le fait qu'il soit aussi peu attaché à sa famille. Il a vu pour la dernière fois, à ma connaissance, à Prague à ce moment-là. Il n'arrivait pas à retourner à Vienne pendant plusieurs mois, donc il était bloqué entre Leipzig et Vienne. Enfin, il rentre à Vienne en 1808. Et l'armée de l'Empire autrichien prépare déjà une nouvelle guerre avec la France. Alors Reicha se dit, je vais être du côté des gagnants, je m'installe à Paris, tant mieux. Et évidemment, il pouvait se le permettre. Et finalement, le fait que sa tante lui a instruit le français quand il était jeune, et le fait qu'il soit passé 2 ans, pas si fructueux que ça, entre 1799 et 1801, est une bonne chose, puisqu'il avait fait un sacré carnet d'adresses entre Cherubini et les autres compositeurs. Et du coup, en 1808, quand il s'installe définitivement à Paris, il était accueilli les bras ouverts par les autres compositeurs. Donc c'était un grand atout, ce bagage déjà qu'il avait pour la France, parce que quand même, à 38 ans, s'installer dans un nouveau pays, sans emploi, je veux dire, c'est très courageux de sa part. J'admire beaucoup sa démarche.
Quel accueil la capitale lui réserve-t-elle ?
Alors c'est étonnant puisque Reicha a été toujours obsédé par cette idée, encore une fois, d'être un compositeur de la scène. Je me demande si c'est aussi puisqu'il savait que certaines institutions ne respectaient que des compositeurs de la scène. Je pense notamment à l'Académie française. À l'époque, pour être admis en tant que compositeur à l'Académie, il fallait être compositeur de la scène. Il fallait avoir écrit des opéras et avoir vécu un succès notable. Et Reicha, ce n'est pas du tout son cas. Alors en arrivant à Paris, je pense qu'il ne rêvait que d'être sanctionné par les grandes institutions. Donc là, en l'occurrence, à Paris, c'était non seulement l'Institut, l'Académie des musiciens, mais les autres compositeurs, le Conservatoire, etc. Alors, il a fait jouer 3 de ses opéras, 3 échecs de suite, malheureusement. C'est très étonnant. Alors, est-ce que c'était une question de goût à l'époque ? On ne peut pas vraiment juger aujourd'hui, puisqu'on a si peu d'enregistrements. Les opéras de Reicha sont si peu joués, si appréciés de nos jours. Il n'y a même pas des éditions qui nous permettent d'étudier l'œuvre correctement. Il y a uniquement des partitions en manuscrit. Donc, on a beaucoup de mal à saisir l'importance de ce rejet par le monde parisien. Par contre, en contraste total avec son succès, non seulement de pédagogue, mais aussi de compositeur de musique instrumentale. Et c'est justement à Paris qu'il va démarrer sa deuxième carrière, en quelque sorte, de compositeur, en écrivant notamment pour les quintettes, pour les instruments avant. Là, on a entendu un exemple, un merveilleux exemple, non seulement puisque la pièce est très très jolie et très bien jouée, mais aussi parce qu'on sent tout de suite le style qui est assez galant, assez facile à écouter, très accessible, très conventionnel aussi, il faut dire. Et c'est drôle qu'il a eu beaucoup plus de succès avec ses œuvres conventionnelles de son vivant. Bon, évidemment, ce sont les traités de composition, les cours qu'il a donnés et les œuvres expérimentales qui ont fait sa réputation parmi les compositeurs tels Beethoven et ses pairs. Mais par contre, avec le public, c'était plutôt avec des quintettes avant notamment, donc avec uniquement des instruments avant, qu'il a eu un tel succès.
Alors, j'ai trouvé une citation très intéressante de Raeka qui explique son intérêt pour les quintettes avant et j'aimerais bien vous la lire. On va mieux comprendre en fait pourquoi il s'est intéressé tout d'un coup à écrire ces œuvres qui lui ont valu autant de succès. Alors je le cite, « À l'époque, il y avait pénurie non seulement de bonne musique classique, mais de bonne musique pour instruments avant, simplement parce que les compositeurs connaissaient très peu leur technique. Les effets que le mélange de ces instruments pouvait produire n'avaient pas encore été explorés. Telle était la situation lorsque j'ai eu l'idée d'écrire un quintette pour un ensemble de 5 instruments avant, flûte, hautbois, clarinette, cor et basson. Ma première tentative fut un échec. Un nouveau style de composition était nécessaire à ces instruments, combinaison qu'il fallait trouver pour surprendre les auditeurs. Après avoir longuement réfléchi et étudié attentivement toutes les possibilités de chaque instrument, j'ai fait une nouvelle tentative et ai composé 2 quintettes très réussies. Quelques années plus tard, j'ai achevé mon premier livre de quintette. Je dois leur succès à tous ces admirables musiciens, messieurs Guillou, Vogt, Bouffi, Dopra et Henri, dont l'exécution parfaite dans des concerts publics et des soirées musicales privées ont fait parler d'eux dans tout Paris. Encouragé par ce succès, j'en ai composé 18 autres. À en juger par les lettres de félicitations que j'ai reçues, mes quintettes ont fait sensation à travers toute l'Europe. »
Ah, c'est une belle citation, j'adore ce genre de document.
C'est tiré des mémoires de Raeka.
Oui, c'est très intéressant et je trouve que justement dans les mémoires de Raeka, on ne peut pas faire confiance à tout ce qu'il dit, puisqu'il essaie notamment de renforcer son lien avec Beethoven, l'histoire qu'il raconte sur quand il s'est évadé de sa maman dans son village natal est assez romanesque, la façon dont il va retrouver son grand-père, tout ça, je pense qu'il a exagéré dans certains détails. Mais là, on a vraiment la preuve historique que ces quintettes avant ont été acceptées par le milieu parisien immédiatement, notamment par les musiciens qui ont tant apprécié. Et c'est normal, c'est encore le cas aujourd'hui. Les compositeurs vont composer des œuvres pour, par exemple, des instruments sols ou pour la percussion, notamment. Dans les 50 dernières années, il s'est construit un énorme répertoire qui n'existait pas auparavant et se donne la place vraiment à ces musiciens de s'exprimer. Il a vraiment apporté quelque chose d'important aux instruments avant, qui étaient, il faut le rappeler, encore en évolution à cette époque, que ce soit le cor naturel, le basson, l'hautbois. C'est des instruments qui ont énormément évolué au début du 19e siècle. Et c'était grâce à l'existence de ces œuvres, donc ces quintettes avant, qui pouvaient s'exprimer pleinement, puisqu'on a évoqué les symphonies de Stamitz, par exemple, à Mannheim. Le rôle des instruments avant était toujours très typé dans les symphonies. C'était à la limite des passages solo dans les premiers mouvements. Dans les mouvements lents, parfois, il y avait un solo pour la flûte, pour la clarinette. Sinon, c'était des instruments de soutien qui plaquaient des accords pendant que les violons et les cordes allaient jouer les mélodies. Donc, c'est vraiment un usage fonctionnel, mais très limité. Tandis que là, dans les quintettes avant, il a vraiment exprimé avec beaucoup plus de virtuosité, notamment les différents rôles. Et puis, il y a une espèce de transparence, parce qu'on n'a que les instruments avant, qui ont chacun leur timbre très différent. On peut les distinguer, on peut distinguer un basson d'un cor très facilement, parce que les timbres sont tellement différents. Et puis, il ne faut pas oublier, justement, les noms de ces virtuoses, notamment qui étaient des musiciens de l'orchestre et de l'opéra comique à Paris, qui étaient tellement contents d'avoir ces nouvelles pièces. Et du coup, effectivement, je pense qu'il en a écrit 25 à la fin de Quintette avant, entre 1811 et 1820. Donc il est arrivé à Paris à nouveau en 1808. Il a composé dès 1811. Comme les opéras ne marchaient pas, il a mis le paquet sur les quintettes avant. Il a bien fait.
Eh bien, on va avoir un aperçu d'un de ces quintettes. Je propose d'écouter le final allegretto d'un quintette en fa majeur. Thank you. Le final Allegretto du quintet à vent en Fa majeur d'Anton Rajka par le quintet à vent de l'Académie de Prague. Ces quintettes ont remporté d'énormes succès, on en a même des échos dans la littérature, il n'y a qu'à relire Balzac pour s'en apercevoir. Dans une nouvelle intitulée « Les employés », Balzac écrit ceci, je le cite, « Vous devriez venir chez nous entendre un concert mardi prochain, on joue un quintet de Rajka. » Surprenant, non?
Oui.
Alors, vous disiez tout à l'heure que Raïka restait relativement classique dans le traitement de ses quintettes. Je pense qu'on peut dire qu'il a aussi expérimenté dans le domaine, non seulement en explorant les possibilités expressives des instruments à vent, mais aussi en s'amusant à les confronter avec celles des cordes. Est-ce que vous voudriez parler de son approche des octuores ?
Oui, donc il y a Nature qui est très connu par les musicologues de Raïka, où notamment il y a l'octuore divisé en deux. Donc, il y a quatre musiciens de chaque côté. Il y a quatre musiciens qui peuvent jouer en mineur, c'est-à-dire qu'il y a à peu près le même thème en mineur, l'autre en majeur. Donc, c'est une espèce de bitonalité avant 100 ans. C'est du Charles Ives, mais encore une fois, 100 ans plus tôt. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a les parties qui sont facultatives, c'est-à-dire qu'on peut soit jouer les quatre musiciens qui jouent leur partie, soit les autres quatre musiciens qui jouent leur partie, indépendamment l'un de l'autre, ou alors on les joue ensemble. Et c'est très étonnant que cette variété dans les démarches, c'est vraiment expérimental. Je trouve ça très étonnant quand même pour l'époque.
Alors à Paris, Raïka se fait non seulement une réputation de compositeur de quintettes, mais il se fait également une réputation de pédagogue, parce que très vite il va être engagé au Conservatoire de Paris.
Oui, absolument. Il a eu beaucoup de chance, d'ailleurs, qu'il y ait une place qui s'est libérée en 1818. Et il a succédé à un autre professeur de contrepoint. Donc, il était devenu professeur de contrepoint et plus tard de fugue. C'est drôle, en fait, parce qu'il s'est installé à Paris, encore une fois, en 1808. Et il a mis 10 ans pour devenir professeur au Conservatoire de Paris. Et la raison est simple, c'est puisqu'il a commencé tout de suite à donner des cours particuliers en arrivant à Paris pour gagner sa vie. Et petit à petit, ses élèves sont devenus eux-mêmes professeurs au Conservatoire de Paris. Donc, il avait un cadre de personnes qui le soutenaient, qui comprenaient exactement ce qu'il pouvait proposer en tant que professeur. Et c'est grâce à eux, grâce à ses élèves, qu'il est rentré en tant que professeur. C'est très étonnant comme système. D'habitude, c'est le contraire, hein. Quand même, c'est le professeur qui donne tout à leurs élèves et les élèves qui intègrent l'établissement pour la réputation de l'établissement, pas forcément pour un prof en particulier. Mais la liste d'élèves de Raïka de cette époque est absolument extraordinaire, que ce soit Liszt, Berlioz, Gounod, Franck, Georges Onslow. C'est vraiment... Et puis la diversité de musiciens, de leur démarche, de leur style, de leur esthétique respective, c'est très étonnant. On peut citer même César Franck, qui a commencé des cours particuliers avec lui. César Franck, qui avait 13 ans à l'époque et qui n'a pas pu profiter longtemps, puisqu'elle a commencé au mois de mai. Et Raïka qui est mort l'année suivante, donc c'était juste une question de quelques mois. Mais ça l'a marqué, je pense, notamment dans l'usage de contrepoint, de fugue. Franck, c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse justement à cet héritage de polyphonie. Et c'est drôle qu'il ait été élève de Raïka à cette époque. Très étonnant. Aussi, ça me fait penser à une citation de Berlioz. Très étonnant.
Berlioz qui a travaillé longtemps avec Raïka et qui était très admiratif du compositeur.
Absolument, oui. C'était vraiment une année très très importante passée chez lui à travers le contrepoint. Il disait qu'il a appris beaucoup de lui en très peu de temps. Il y a cette citation de Berlioz qui dit que Raïka paraissait aussi peu sensible à l'éloge qu'à la critique. Il ne semblait attaché de prix qu'au succès des jeunes artistes dont l'éducation lui était confiée au conservatoire. Elle leur donnait ses leçons avec tout le soin et toute l'attention imaginable. Il avait fini par me témoigner de l'affection, mais dans le commencement de mes études, je m'aperçus que je l'ai incommodé à force de lui demander la raison de toutes les règles, raison qu'en certains cas, il ne pouvait me donner, puisque, elle n'existe pas. Alors c'est drôle parce qu'on a à la fois Raïka qui est complètement indépendant, qui sait qu'il va se faire sa réputation par le travail, il ne fait pas les relations publiques, encore une fois, il n'organise pas de concerts. Il y a souvent dans ses écrits, il mentionne le fait qu'il a souffert au niveau de sa réputation, puisqu'il n'organisait jamais de concerts, il préférait rester à sa table de chevet pour composer tout le temps, toute la journée, quand il ne donnait pas les cours. Et là, on sent aussi un côté un peu têtu, un peu autoritaire. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a souffert par la suite, puisqu'il était certes très très créatif, mais il voulait toujours inventer des systèmes pour justifier sa démarche artistique. Et je ne sais pas s'il avait raison de le faire. Il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est Hindemith, qui a composé toute sa musique sur... on le considère aujourd'hui comme néoclassique, entre guillemets, mais il avait créé un nouveau système harmonique, et après il a écrit un traité de composition que personne n'a utilisé. Et je pense qu'il aurait mieux fait de nous laisser dans le mystère, de nous laisser nous demander comment il a fait pour composer cette musique étrange. Et notamment après la mort de Raïka, le côté conservateur des professeurs au Conservatoire de Paris l'a incendié, l'a profité du fait qu'il ne pouvait plus se défendre. Et ça me fait penser aussi à une citation, puisqu'on a vu sa réputation se construire, notamment dans la biographie universelle des musiciens de Fétis en 1864. Donc Fétis était un musicien belge et qui est devenu un musicologue, l'un des premiers musicologues en France et qui a fait et cassé la réputation de maintes musiciens. Il n'aimait pas du tout Berlioz d'ailleurs, pour les mêmes raisons que Reka. Il trouvait qu'il sortait trop des conventions. Et par contre, sa façon de casser les écrits d'Erika est assez étonnante, notamment dans un texte officiel. Il dit « Tel est le système qui a eu de la vogue parmi quelques artistes de Paris, parce que le professeur qu'il a inventé faisait oublier ses défauts dans les analyses et les applications pratiques qu'il donnait à ses élèves. Mais qui n'en est pas moins la théorie la moins rationnelle qui fut possible d'imaginer est le retour le plus déplorable vers l'empirisme grossier des anciennes méthodes du commencement du XVIIIe siècle. » Alors, c'est très étonnant parce qu'à la fois, Reka a une grande place dans cette biographie universelle des musiciens, l'une des premières qui était publiée, une espèce d'encyclopédie avec tous les compositeurs de l'époque. Alors, il était suffisamment respecté pour mériter un article de 4-5 pages, énorme, ce n'était pas du tout le cas de tout le monde. Donc, il y a un certain respect dans les démarches. Mais c'est très étonnant de constater que, dès sa disparition, différents compositeurs, notamment ses collègues au Conservatoire de Paris, que ce soit Cherubini, qui finalement l'a bien reçu, qu'il a pris en tant que professeur de fugue et de contrepoint, mais était beaucoup plus conservateur. Et je pense que le problème avec Reka, la raison pour laquelle tout le monde le cassait, les différents compositeurs, c'est parce qu'il ne laissait pas vraiment la place aux autres. C'est-à-dire que quand on a une convention, tout le monde est d'accord sur une forme, par exemple la symphonie. On compose tous avec la même forme, on va la moduler légèrement chacun de sa façon, on va utiliser des thèmes différents, mais on est d'accord sur les règles du jeu. Tandis que Reka a tellement brisé toutes les règles du jeu qu'il a tout explosé. Alors, si on le suit, il faut tout réinventer et tout le monde n'est pas capable de le faire. Donc effectivement, c'est très difficile de suivre cette démarche. C'était vraiment un parti pris tellement fort qu'il a repoussé beaucoup, beaucoup de gens. Et je me rappelle très bien quand je lisais des biographies détaillées, des écrits qui faisaient allusion à Reka, on sentit le mépris de ses pairs contemporains, puisque c'est quelqu'un qui était tellement différent, qui sortait tellement du lot, et en même temps qui était tellement exubérant, évidemment, puisqu'il avait tous ses élèves qui voulaient absolument devenir apprendre de lui le contrepoint à la fugue, donc il y avait quand même quelque chose. Et puis c'est Quintet avant qui a un succès monstrueux à Paris à l'époque. Il n'y avait aucun compositeur qui écrivait pour les instruments avant de telle façon avant. Et évidemment, Berlioz, dans sa symphonie fantastique, plus tard, allait encore plus loin. Mais c'était grâce à l'exemple de Reka.
Alors, on a beaucoup écouté de musique instrumentale de Reka. Il existe aussi quelques enregistrements de musique vocale, et notamment un requiem et un tédéum. Peut-être qu'on pourrait aller jeter une oreille dans cette musique sacrée.
Avec plaisir.
Premier mouvement du Te Deum d'Anton Rajka. Václav Smetáček dirigeait le chœur mixte Kühn et l'orchestre symphonique de Prague. Alors cette pièce vocale nous fait penser un peu à ce qu'un Cherubini pourrait écrire à la même époque.
Absolument. Brillant, très accessible, beaucoup d'énergie. Oui, c'est typiquement la musique facile du milieu parisien de l'époque qui passait bien. Alors c'est intéressant parce que comme il n'avait pas de succès avec ses opéras, ça ne l'a pas empêché d'écrire des œuvres sacrées. Pas beaucoup quand même. C'est l'une des choses qui démarque complètement Rajka de ses contemporains. C'est que c'est principalement de la musique profane qu'il va écrire. Et c'est vraiment, ça fait partie des choses aussi qui vont distinguer la période classique avec la période baroque. C'est ce détachement de l'Église. Bon, c'était aussi lié à son éducation, encore une fois, à l'université de Bonn. Ses intérêts pour les Lumières, Bonn, si l'université de Bonn existait, si son oncle a été invité à être le chef d'orchestre de l'orchestre de la cour, c'est puisque justement la musique était en première place, la culture était plus importante que la religion. Donc c'est intéressant, c'est un énorme contraste avec Zelenka par exemple, où il dépendait complètement de la chapelle royale à l'intérieur de la cour à Dresde.
Rajka ayant vécu à Paris de 1808 jusqu'à sa mort en 1836, j'imagine que le patrimoine qu'il laisse à Paris doit être important.
Oui, c'est énorme. C'est très, très étonnant. Même aujourd'hui, on a la chance, puisque tout a été laissé à la Bibliothèque nationale de France, effectivement. Donc, ce n'est pas contrôlé par un particulier. Ça peut toujours engendrer des problèmes dans ces cas-là. Moi, j'ai eu moi-même des expériences de recherche où on n'arrive pas à avoir accès aux manuscrits. Alors, la Bibliothèque nationale de France a une nouvelle initiative qui est assez intéressante, où des chercheurs peuvent demander, s'ils ne peuvent pas se déplacer, à que certains documents soient scannés. Et une fois que les documents sont scannés, donc envoyés par PDF aux chercheurs, systématiquement, les documents sont mis en ligne à disposition. Donc c'est très, très utile, puisque parfois, il y a des documents, de temps en temps, il y a des manuscrits, de partitions, que ce soit de piano ou autre, qui sont progressivement mis en ligne. Alors, il y a une autre démarche qui est très étonnante et dont je profite de plus en plus, et que je suis très heureux de partager aujourd'hui, c'est l'initiative de l'éditeur Symétrie à Lyon, en France, et leur collaboration en particulier avec un musicologue qui s'appelle Michael Bully, avec lequel je suis en contact depuis environ 6 mois, 1 an maintenant. Et la collaboration consiste à la chose suivante. Il faut savoir que ces manuscrits qui sont délaissés à la Bibliothèque nationale de France sont des partitions qui sont manuscrites à la main de Reika, donc pas toujours faciles à lire. Ce sont sur du papier qui se dégrade assez facilement, assez vite. Et donc pour un musicien comme moi, pour avoir accès à la partition, ne serait-ce que pour savoir ce qui existe, on ne peut pas tout simplement aller à Paris et consulter les partitions automatiquement, avoir un piano sur place pour les déchiffrer, enfin c'est très très compliqué. En fait, les partitions existent, elles sont plus ou moins disponibles, mais elles ne sont pas accessibles pour n'importe quel musicien. Il y a la Bibliothèque internationale qui est sur Internet, là, qui est en lien avec Wikipédia, qui publie beaucoup de PDF de partitions. Tout ce qui est dans le domaine public aujourd'hui est disponible librement sur Internet et c'est fantastique. D'une part, mais d'autre part, il y a énormément de partitions qui ne sont pas encore publiées, éditées de façon lisible. Donc, ce que l'édition Symétrie est en train de mettre au point, c'est justement publier ces partitions. Donc, Michael Bully, il va préparer les partitions, il va les manuscrire avec un logiciel sur son ordinateur, il va transférer les notes des partitions manuscrites sur son logiciel, qui vont être plus ou moins lisibles par la suite par les musiciens, et ça facilite l'accès à la musique. Par contre, ce n'est pas uniquement copié, il y a beaucoup de décisions éditoriales, parce qu'évidemment, il y a des fautes, il y a des choses bizarres, notamment dans Reika, qui est tellement expérimental. Il y a beaucoup de doutes qu'on peut avoir, donc ça, c'est une grosse responsabilité. Il faut quelqu'un de non seulement très méticuleux, mais musicien. Et heureusement, Michael Bully, il est compositeur. Alors, il y en a d'autres. Il y a un Suédois, Henrik Lohenmark, qui a fait sa thèse à Stockholm sur Reika, et en collaboration avec un magazine, International Piano, à Londres, en 2002, ils ont publié un article de fond très, très intéressant du musicologue et journaliste Martin Anderson, qui a, pour la première fois, une espèce de chronologie sur les différentes pièces qui n'ont jamais été publiées. Et c'est comme ça, quand on fait des recherches sur un compositeur, qu'on arrive à trouver des brins d'informations par-ci, par-là. Il y a une biographie en tchèque qui était publiée pour le bicentenaire en 1970, qui a été traduit en anglais 20 ans plus tard, qui est truffé d'erreurs apparemment, mais qui est quand même la seule biographie moderne de Reika et qui est très importante parce qu'elle nous donne plein de points de repère, ne serait-ce que pour savoir ce qu'il a composé, parce que sinon on n'a pas la liste.
Non, c'est un travail finalement de détective pour reconstituer ce corpus d'œuvres. Et si une édition complète des partitions et d'enregistrement doit se faire, j'imagine que c'est un travail qui va prendre plusieurs années.
Absolument, c'est très lent, c'est progressif, mais ça prend de l'ampleur. Là, par exemple, aux éditions Symétrie, ils ont publié non seulement 2 des pièces que j'ai jouées pendant cette série, à savoir la fantaisie sur un seul accord, qui vient d'être publiée, c'est une nouveauté. J'ai reçu la partition d'ailleurs 4 jours avant d'arriver ici pour faire l'émission. Il y a le Capriccio qui a été publié, je crois, au mois d'août 2015. Et après que j'ai enregistré en vidéo, c'était une création vidéo qui est disponible sur YouTube. Donc une pièce passionnante qui faisait partie d'une traité de composition. Les exemples pratiques, Pratische Beispiele. Et maintenant, ce qui est surtout intéressant, vu le lien avec Beethoven, c'est qu'il y a plein de sonates. Alors, il y a des sonates qui ont été publiées pendant sa vie, très peu. Les éditions sont perdues. On a localisé une édition dans une bibliothèque à Bruxelles qui était envoyée à Symétrie. Ils sont en train de travailler sur cette édition. Mais il y a déjà des grandes sonates qui durent une demi-heure pour certaines, qui sont extrêmement riches, extrêmement originales. et qui vont être découverts, joués, créés pour la première fois. C'est absolument incroyable quand même que des sonates composées en 1801, 1802 soient créées en 2016, 2017. C'est, ne serait-ce que d'imaginer ça, c'est vertigineux.
Mais d'un autre côté, vous allez aussi lire une quantité impressionnante de partitions donc qui n'ont jamais été jouées, jamais enregistrées. Comment est-ce que vous allez sélectionner les œuvres? Parce qu'il y a peut-être des choses qui sont moins intéressantes. C'est vous vous fiez à votre seul feeling en déchiffrant les partitions?
Alors, il y a effectivement la possibilité de déchiffrer une fois que les partitions sont accessibles, qu'on les a en PDF de scan de manuscrits ou alors en édition de symétrie. Ça nous permet effectivement de découvrir, d'essayer de juger. Alors, ce qui est difficile, justement, c'est que quand on déchiffre, ben moi en tout cas quand je déchiffre lentement parce que j'ai envie à la fois de m'imprégner du détail du morceau et aussi c'est parce que j'ai envie d'éviter des mauvaises habitudes techniques. C'est-à-dire que si mes doigts impriment, ça a été déjà prouvé sur le plan neurologique, si on imprime des mauvaises habitudes, des fausses notes, c'est très difficile de s'en détacher. Moi, même en jouant les variations Dressler de Beethoven l'autre jour, je sais que très bien qu'il y a une note que j'ai apprise que j'ai mal appris la première fois, et à chaque fois que je joue cette note dans ce contexte, ça me demande un effort cérébral supplémentaire, ça me fatigue un peu plus parce que je dois faire attention à chaque fois, et si je ne fais pas attention à faire cette note-là, un ré au lieu d'un do d'ailleurs, je me plante à chaque fois, systématiquement, parce que le corps fait tout seul ce qu'il veut. Mais par contre, il y a une autre possibilité qui est assez drôle, que moi j'adore, que j'ai demandé donc au musicologue Michael Bouly de préparer pour moi, puisque une fois qu'il rentre ses notes dans son logiciel, ces logiciels sont des logiciels de compositeurs. Et donc, automatiquement, les compositeurs qui ont l'habitude de composer avec ces logiciels, ils peuvent créer ce qu'on appelle un fichier MIDI. C'est-à-dire, c'est l'ordinateur qui va lire le fichier audio, évidemment, qui lit la partition comme un robot. Donc, il faut vraiment faire abstraction du fait que ça manque de dynamique, qu'il n'y a aucune flexibilité dans le rythme. C'est vraiment des choses qui sont désagréables au possible à écouter parce que l'ordinateur fait tout le contraire de ce qu'un être humain ferait. Mais par contre, une fois qu'on a l'habitude d'entendre les partitions comme ça, on peut les entendre dans le tempo directement. Ça, c'est un grand avantage. Donc, on peut comprendre mieux certains morceaux. Par exemple, la fantaisie sur un seul accord. C'est tellement rapide, ça se passe tellement vite que si on n'a pas le tempo, la pièce s'écroule complètement. Ça n'a aucun intérêt à jouer trois fois plus lentement comme on le fait quand on l'apprivoise. Mais par contre, j'aimerais bien vous faire écouter, par exemple, le début de l'une des sonates, du coup, qui n'a jamais été jouée et que j'ai reçue il y a quelques semaines de la part du musicologue pour que vous voyez ce que ça donne. Et comme ça, vous pouvez voir ce qu'un musicien doit faire, comme il doit imaginer des couches d'expressivité, de sentiments qui peuvent se rajouter sur le corps des notes, des notes pures jouées dans le rythme, exactement comme c'est noté, mais sans rien de plus.
Avec plaisir. Anton Reicha, version MIDI, c'est là qu'on réalise à quel point il faut de l'imagination aux musiciens pour interpréter une nouvelle partition, imagination que la machine certainement ne peut pas avoir.
Oui, c'est très intéressant, mais en même temps, c'est drôle parce qu'en tant que musicien, moi j'entends tout de suite s'il y a un potentiel ou pas, notamment avec le tempo, là j'entends par exemple que le déplacement des mains, da-da-da-da-da-da, pam-pam, j'entends que ça va être difficile le déplacement des mains, que ça va être intéressant, ça va être un challenge pour l'instrumentiste qui peut être intéressant à creuser. Et j'entends que voilà qu'il y a quelque chose à habiller, évidemment en prenant plus de temps, on module tout, c'est-à-dire que ce qu'on fait au final, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'entendre, mais c'est un aperçu quand même, c'est quelque chose et du coup qu'on peut faire loin du clavier. Donc moi, si je suis en train de voyager, je peux écouter ça. Si je pouvais, par exemple, avoir des fichiers sonores comme ça de toutes les pièces qui existaient à la Bibliothèque nationale de France, qui n'ont jamais été jouées, vous imaginez ça? Si les musiciens avaient accès à cela, je pense qu'on jouerait beaucoup plus facilement toute cette musique perdue. C'est parce qu'il faut déchiffrer tout, justement. Ça prend énormément de temps, ne serait-ce que pour évaluer si c'est intéressant ou pas, que les gens ne le font pas. C'est pour ça qu'on a tellement d'intégrales Beethoven qui sortent encore et tellement de musique qui n'a jamais été interprétée. Quelque part, c'est un gâchis énorme.
Est-ce qu'on a une idée à peu près de combien de sonates Anton Reicha a composées ?
Alors pour l'instant, je pense que les éditions Symétrie en ont publié environ 6. On vient de découvrir justement la partition d'un groupe de sonates qui étaient publiées pendant la vie de Reicha, mais qui ont été perdues. Et c'est drôle parce qu'en en parlant, je pense que c'était dans un commentaire sur un article sur Internet que Michael Bouly a dit « J'espère un jour retrouver telle et telle sonate » que quelqu'un lui a contacté en disant « Mais ces sonates, en fait, sont disponibles à la bibliothèque de Bruxelles parce que la personne avait fait des recherches. » Donc, c'est un peu comme chez les mathématiciens, il y a certains problèmes comme ça, de génération en génération, les gens se demandent « Alors, ce serait quoi ?» La solution, et puis il y a une espèce de collaboration internationale dès qu'on a vent de quelque chose qui bouge. Donc là, il y a des. J'ai fait allusion donc, à Michael Bouly qui est à Lyon, Henrik Lewenmark qui est à Stockholm. Il y a certains musicologues qui sont à Paris qui s'intéressent à Reicha. Il y a sans doute des universitaires aux États-Unis qui s'intéressent parce qu'il y a toujours des universitaires aux États-Unis qui s'intéressent à tout, au moindre petit creux du répertoire. Donc j'imagine que. Il y a un mouvement qui est en train de se mettre en route. Alors, il faut qu'il y ait des personnes aussi pour le jouer, hein, la musique. On ne peut pas que l'enregistrer une fois. Ça ne suffit pas, malheureusement. Il y a le Quatuor Ardeo qui a sorti un magnifique enregistrement chez L'Empreinte Digitale en 2014 avec deux des Quatuors Opus 90 qui sont en création, ce qui est très étonnant. On crée encore des Quatuors de Reicha. Et il y a aussi donc, le Quatuor Kreitzer qu'on a entendu chez Toccata Classics, magnifique label britannique qui ne fait presque que de publier des œuvres en création sonore.
Donc l'intérêt des musiciens est là, la musique est là, elle n'attend plus que d'être redécouverte. On vous remercie, Ivan Illich, d'avoir partagé votre passion et votre enthousiasme pour ce compositeur, Anton Reicha. On va suivre avec beaucoup d'intérêt les nouvelles découvertes et vos futurs enregistrements, qu'on vous souhaite en tout cas très nombreux. Et puis, eh bien, on vous remercie encore une fois de ce magnifique portrait. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On va se quitter peut-être en écoutant une ouverture d'Anton Reicha. Clin d'œil à l'aventure qui ne fait que commencer.
Nous voilà arrivés au terme de cette série de Musique en mémoire. Catherine Buzer, un immense merci à vous.
Merci beaucoup à vous, Jean-Luc.
Non, un immense merci surtout à Ivan Illich. Et un grand coup de chapeau à son talent multiple, puisqu'il a à la fois les notes et les mots, prise de risque au piano, en toute sécurité, puisque Renaud Millet-Lacombe était notre preneur de son, et Frédéric Bernard, notre réalisateur. Isabelle Watson, c'est notre assistante à la production. Vous écoutez Espace 2, il est 11h.